L'invité du soir dans la belle antenne.
Michaël, auteur et libraire, est donc avec nous ce soir. Bonsoir à toi.
Bonsoir Flavie, bonsoir à toutes et à tous.
Donc, je viens de le dire, mais tu es auteur et aussi libraire. Et tout récemment, le 9 avril dernier, tu nous as dévoilé le deuxième volet de la saga Hector Valland. On peut dire ça comme ça ? La saga Hector Valland ?
Oui, c'est comme ça que je l'appelle, ouais, tout à fait.
La saga Hector Valland. Et donc, le livre s'appelle Le mystère Versace.
Versace.
J'avais peur de mal prononcer.
Non, c'était pas mal.
Donc, avant de parler plus en détail de tes livres et de ce deuxième volet, je propose qu'on fasse un peu plus connaissance. Donc, tu es auteur. Et comment tu as découvert cette passion pour l'écriture? Est-ce que tu écris depuis tout petit?
Oui, depuis un certain temps déjà. Pour tout te dire, j'ai deux amis d'enfance, Mehdi et Guillaume, et on s'est toujours amusé à écrire un petit peu ensemble, des petits mots, des petites choses, et quelques nouvelles également. Donc ouais, ça date un petit peu. Maintenant, l'écriture d'un roman, c'est encore une toute autre aventure, mais ouais, ça fait quelques années déjà.
Et est-ce que tu as un parcours littéraire? Est-ce que tu as fait des études dans l'écriture ou pas du tout peut-être?
Pas du tout. Mes études m'ont mené en histoire contemporaine, discipline que j'utilise énormément dans mes romans, mais on y reviendra peut-être. Donc oui, non, de l'histoire contemporaine, et j'ai terminé par deux travaux universitaires qui m'ont donné encore davantage l'envie d'écrire.
Il y avait un peu cette trace d'écriture quand même dans finalement les travaux en fait.
Oui, tout à fait.
Mais pas de la même manière que pour un roman, ça c'est sûr. Et donc toi, c'est quoi ton ou tes genres un peu préférés, enfin si tu en as que tu préfères peut-être en littérature?
Alors déjà avant tout, il y avait la bande dessinée. Moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus touché dans ma jeunesse avec les comics américains, mais bien sûr les classiques, Tintin, Astérix, Lucky Luke, tout ça. Et puis je suis passé par la bibliothèque rose, la bibliothèque verte classique. Et enfin, j'ai découvert Arsène Lupin, qui est sans doute le personnage de Maurice Leblanc, hein, qui m'a vraiment touché énormément. Arsène Lupin, et notamment un roman qui s'appelle L'île aux 30 cercueils, qui lui m'a vraiment, je pense, avec le recul, donné cette envie d'écrire.
Et donc, tu dirais que c'est ce livre-là, un peu ton livre préféré, que tu pourrais un peu relire tout le temps?
Il m'accompagne tout le temps, parce que justement, c'est une aventure assez étonnante d'Arsène Lupin, et il est quasiment pas là. C'est ça qui est un tour de force dans ce roman, qui est absolument fabuleux.
Et est-ce que les livres que du coup tu lisais petit t'ont un peu aidé aujourd'hui pour, de ta manière d'écrire, etc., et peut-être de réfléchir en fonction de comment tu écris tes livres?
Oui, tout à fait. Je pense que pour écrire du thriller, du polar, il faut lire du thriller et du polar pour saisir les structures, comprendre un petit peu comment s'organise le texte avec la montée vers le climax, comme on dit, et surtout répondre à toutes les questions. Donc oui, les lectures précèdent l'écriture.
Tu disais en plus que tu aimais beaucoup les bandes dessinées avant, et tu t'es jamais dit que tu... Enfin, t'as jamais voulu te lancer dans la bande dessinée, toi, en tant qu'auteur?
Alors, j'aime toujours les bandes dessinées, mais sincèrement, j'ai tenté le dessin, et il valait mieux que je m'arrête. Parce que, hormis un Lucky Luke un peu, les gens marqués, tout ça, j'étais extrêmement mauvais.
Alors toi, qu'est-ce que tu préfères dans l'écriture? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui se fait en une traite, ça serait trop facile sinon. Est-ce que t'as une partie que tu préfères, ou enfin dans l'écriture, même plus généralement dans le processus de création finalement?
Le processus de création, voilà, c'est déjà ça qui m'intéresse. Depuis le tout début, hein, depuis la première idée, qui n'est pas forcément la bonne d'ailleurs, jusqu'au mouvement des chapitres, jusqu'au dernier moment en fait. Tout ça, c'est passionnant. Le travail sur le plan, le travail sur la création des personnages, les caractères, on en reparlera peut-être, mais tout ça, c'est génial. Et au final, quand tout est bien agencé, le récit coule quasiment tout seul.
Et c'est vrai que on va pas expliquer tout le processus de création, parce que je pense que là, on a pour plusieurs heures d'émission, sinon. Mais là, tu disais donc la création des personnages. Est-ce que, enfin, je me doute que chaque auteur-autrice fonctionne différemment, mais est-ce que toi, pour tes livres, par exemple, tu as d'abord créé tes personnages et créé leur caractère pour ensuite avoir un fil rouge et que les relations se fassent? Ou est-ce que tu avais déjà la trame de l'histoire et ensuite t'incorpores un peu les personnages?
Alors, les deux se font en parallèle, en fait. Mais je passe effectivement par des fiches de personnages sur lesquelles je mets les caractéristiques physiques, pour pas me tromper, hein, qu'un personnage blond ne devienne pas brun un peu plus loin. Mais ce qui est important, c'est surtout de noter le caractère. Si on crée un personnage, par exemple, qui est colérique, dans certaines situations, il devra se mettre en colère. S'il ne se met pas en colère, c'est qu'on a raté un truc. Donc oui, ce qui est important aussi, c'est de décrire son ambition, où il est au moment du, au début du roman et où on veut l'emmener. Tout ça crée va modeler le personnage qu'on va plonger dans les situations qu'on aura créées via un plan plus ou moins complexe. Et c'est là que finalement, en fonction des situations et du caractère du personnage, l'histoire s'écrira.
Est-ce que tu as eu un... Enfin, on va un peu plus parler de tes livres après, mais dans tous tes personnages que tu as créés, est-ce qu'il y en a un vraiment que tu préfères? Je me dis, c'est peut-être Hector Valencoën, mais...
oui, c'est Hector, parce que pendant dix ans, on a été ensemble, je l'ai fait grandir. Alors attention, hein, les personnages dits secondaires prennent parfois beaucoup de place. Je pense à Elena, je pense à Gabriel Casper, et eux aussi, ils sont très importants. Vraiment. Et le personnage à ne pas oublier, c'est l'antagoniste, le méchant. Le méchant, il doit aussi prendre une place importante, parce que plus il sera grand, plus il sera fort, plus la menace sera importante, plus le héros sera sympathique, quelque part. Donc oui, c'est Hector Valencoën. Ouais.
Eh bien, je propose que maintenant on rentre un peu dans le vif du sujet et parler donc de ces œuvres, de tes livres. Donc le 9 avril dernier est sorti le deuxième tome de cette saga donc sur Hector Valencoën. Je me dis, avant de parler de ces livres peut-être plus globalement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce personnage? Qui est Hector Valencoën?
Alors Hector Valencoën, je l'ai situé à Paris au début du XXe siècle, 1908 et plus exactement, dans un contexte très précis. Hector est libraire le jour et voleur de livres rares la nuit. C'est sa caractéristique. Il vole pour sauver sa librairie en permanence, finalement. Et un peu malgré lui, dans le premier tome, Nuit Noire, il va se retrouver embarqué dans une histoire, dans une chasse aux fantômes, alors que lui, précisément, ne croit absolument pas aux fantômes.
Et donc, au total, il y aura 4 tomes pour cette saga. Et donc là, pour l'instant, les 2 premiers sont sortis. Mmh. Et pourquoi 4 tomes au total? Est-ce que tu as... Enfin, comment ça se passe pour séparer... Parce que je me dis, peut-être que l'histoire, tu l'as écrite en entière au fur et à mesure. Mais comment ça se fait pour séparer les... Pour que ça fasse vraiment des tomes, en fait?
Alors, en fait, au début, je voulais écrire une trilogie. Lorsque j'ai créé ces personnages-là, je les ai tellement aimés que j'avais envie de les porter. Donc, d'un roman, on est passé à une trilogie. Et finalement, l'histoire, là où je voulais emmener ces personnages-là, tant physiquement que psychologiquement, imposait finalement un quatrième tome. Et on en arrive donc à 4 histoires indépendantes, avec ce fil rouge, cependant, qui est l'évolution psychologique des personnages. 4 romans étaient nécessaires.
Et donc là, les 4 sont écrits.
Oui.
Comment tu sais que c'est fini? Enfin, quand t'as écrit, comment tu... Est-ce que c'est que tu le sens, tu te dis « Ok, là c'est bon, j'ai tout donné, c'est fini, je peux pas faire mieux que ça ?»
Alors en fait, tout au long de ce fameux fil rouge, il y a un certain nombre de questions, des indices que je vais disséminer dans les premiers romans. Et j'estime avoir terminé lorsque je réponds à toutes les questions, absolument toutes les questions, ça c'est important. Ne pas répondre à une question, c'est ne pas satisfaire le lecteur. Donc non, à l'issue du 4e roman, j'ai répondu à tous les premiers mystères, en tout cas à tous les secrets d'Hector notamment. Et donc, oui, 4, je savais qu'à ce moment-là, ça se terminait, en tout cas pour cette saga.
Et comment ça se passe une séance d'écriture pour toi? Est-ce que tu te... On en parlait tout à l'heure en off, mais donc toi, tu n'as pas fait de résidence d'écriture ou de choses comme ça? Pas encore. Donc comment ça se passe? Est-ce que tu te fixes des tranches horaires où tu te dis, ok, là aujourd'hui, pendant... tant d'heures, je vais juste écrire et il faut que rien d'autre me dérange?
Alors ça, c'est une question que j'adore, parce que chaque écrivain, les grands écrivains, ont un mode de travail différent. Je pense à Stephen King qui va écrire de 4h à 8h et qui s'impose un nombre de pages, Amélie Nothomb qui va écrire de 4h à 8h du matin. Moi, plus modestement, j'ai cherché un moment et j'en arrive à travailler de 7h à midi. J'écris, je jette les idées sur le papier que j'ai rassemblé la veille pendant l'après-midi, parce que justement l'après-midi je passe en mode recherche, je vais approfondir certains points que j'ai pu noter le matin, je vais chercher des correspondances, m'assurer que je ne me trompe pas au niveau, que je ne fais pas d'anachronisme tout simplement, un nom d'automobile, une adresse, une tenue vestimentaire, il faut que ça cadre avec ce que j'écris. Donc ça c'est plutôt l'après-midi, et ces éléments là je les reprends le lendemain matin entre 7h et midi dans le cadre de la rédaction.
Et là, j'y pense parce que tout à l'heure, tu disais donc que tu n'avais pas fait d'études littéraires, mais tu as fait des études d'histoire, oui. Si je ne dis pas de bêtises. Et c'est vrai qu'on le... Alors, je n'ai pas lu le tome 1 encore, j'ai commencé par le deuxième, faute à moi, je me suis mal renseignée. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse partie historique qui est quand même très poussée et très recherchée. Mmh. Est-ce que c'est grâce à tes études aussi où ça t'a vraiment amené et ça t'a donné envie d'écrire avec... Cette partie contexte. Ah ouais,
le contexte historique, il est primordial pour moi, parce qu'il donne du réalisme, il donne un fond de vérité, et s'appuyer sur cette vérité-là pour partir sur un roman, un thriller historique, de l'aventure, c'est parfait. Donc oui, par exemple, pour Nuit Noire, j'ai volontairement placé le début de cette aventure en 1908, parce que 3 ans auparavant, on a la loi de séparation de l'Église et de l'État. 1908, on sait qu'on va vers la Première Guerre mondiale, on veut récupérer l'Alsace-Lorraine. Donc tout ça fait que la société est très instable. On se recherche, tant sur le plan spirituel que sur le plan politique. Donc, à cette période-là, moi je me suis dit, si on ajoute un crime, des crimes qu'on ne parvient pas à expliquer, qui ont quelque chose d'un peu fantomatique comme ça, là la société devient clairement explosive. Et là, c'est parfait pour... faire rentrer mon personnage de voleur, de libraire voleur, qui va courir dans les rues de Paris en quête d'un manuscrit perdu et de l'assassin.
Et donc, pour revenir un peu sur cette saga, sur Hector Vallon, une notion qui est complètement importante, en fait, finalement, c'est cette histoire d'éléments déclencheurs et donc de spiritisme. Je ne sais plus si on l'avait mentionné juste avant, mais on va le mentionner maintenant. Mmh. Comment ça se construit, cette idée d'éléments déclencheurs? Comment ça s'est fait pour toi?
En fait, tout commence avec on positionne les personnages, on les présente, on les glisse dans leur quotidien, dans une certaine routine, et d'un seul coup, il y a cet élément déclencheur. Pour Hector Vallon, pour Nuit Noire, c'est une séance de spiritisme qui se déroule pendant une soirée mondaine. Hector donc, assiste à cette séance qui va très mal se passer, et c'est à ce moment-là que quelque chose semble revenir, quelque chose qui va hanter et frapper dans Paris. Et c'est là que Hector, pour venir en aide à Elena, une jeune femme déterminée à avoir le scoop sur cette affaire, quitte à se mettre en danger, c'est là qu'Hector va se retrouver un peu malgré lui embarqué dans cette chasse aux fantômes.
Et du coup, je suppose que tu as fait des recherches sur tout ce qui est donc le spiritisme, etc. Parce que c'est vrai que c'est quand même un domaine qui est assez large et large, mais quand même assez pointu aussi, j'ai l'impression.
Oui, tout à fait.
Donc, comment ça s'est passé? T'as fait des recherches à côté, lu d'autres œuvres peut-être?
Oui, j'ai fait pas mal de recherches. Alors déjà, le spiritisme est très en vogue dans une certaine société à la fin du 19e et au début du 20e. Donc, c'était assez simple de retrouver des éléments de recherche dans ce contexte-là. Donc, c'était parfait pour cet élément déclencheur-là, en tout cas, oui.
Et un autre point important que je voulais vraiment mentionner, bon, alors malheureusement pour nos auditeurs, ils ne verront pas actuellement les livres, mais les couvertures de tes livres, elles ont été aussi faites par une artiste peintre. Mmh. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, comment ça s'est fait?
Ah, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mes éditeurs, franchement, font un travail remarquable et je tiens à les remercier vraiment, à tel point que... À l'ère de l'IA, ils ont fait appel à une artiste peintre, Julie Marie, qui a lu Nuit Noire et Le Mystère Vesaccio, et qui a créé à partir de ces lectures deux œuvres qui font les couvertures des romans. Et Julie Marie, elle a parfaitement saisi l'esprit Hector Vallon et ce que je voulais y mettre. Elle a fait un travail incroyable, vraiment. Donc merci à elle.
Et donc là, à l'instant, tu parlais aussi donc des éditeurs. Comment ça s'est passé là? Comment t'en es venu à trouver une maison d'édition? Comment ça se passe tout ça?
Alors à l'origine, ces 4 romans étaient écrits pour mes proches, pour ma famille. Je les avais auto-édités pour avoir un objet physique. Et comme je suis assez mauvais en communication, ces 4 livres s'enfonçaient dans les classements, fin fond des classements d'Amazon. Et j'y pensais quasiment plus en fait. Et le jour de mon anniversaire en 2024, Christophe Taureau, merci à lui encore une fois, me contacte en me disant qu'il va créer une maison d'édition, qu'il est tombé sur Nuit Noire et que ça l'intéressait. J'ai eu du mal à y croire, hein. Au début, j'ai pensé que c'était une blague. Et puis, finalement, nous voilà avec deux beaux livres, deux autres qui arriveront bientôt. Et franchement, c'est une formidable aventure qu'on vit ensemble aux éditions, donc oui, les livres de la promenade.
Et pour revenir un peu sur toi, sur tes inspirations pour ces livres, est-ce que tu as des auteurs, autrices dont tu t'es inspiré pour écrire ces livres-là?
Alors, donc, Maurice Leblanc, hein, Arsène Lupin, vous l'avez compris. Maintenant, je parlais de Stephen King tout à l'heure. Là aussi, il y a quelque chose de très fort. Il y a notamment un conseil qu'il donne qui est juste remarquable, c'est que la V2 du livre, la version finale, est égale à la V1, la version 1, moins 10%. Ce qui veut dire que, voilà, le texte, jusqu'à la dernière minute, il faut le retravailler. Et ces conseils-là, mine de rien, ils me suivent. Stephen King, oui, parce qu'il a une maîtrise du rythme qui est assez époustouflante. Et il y a un autre auteur, Haruki Murakami, le japonais qui a une plume, je trouve, incroyable. Il écrit en anglais. Et cet anglais, il va le traduire lui-même en japonais pour purger le texte, en fait, de certaines lourdeurs. Et là aussi, il y a un travail de fou et une légèreté dans la plume que j'aimerais bien atteindre un jour avec le poids d'un Stephen King derrière. Ce serait la bonne combinaison, je pense.
On espère, alors. Et donc, où est-ce qu'on peut retrouver tes livres? Dans des librairies à Caen?
Oui, dans toutes les librairies. Ma maison d'édition est bien distribuée au niveau national. Donc, le Cultura, la FNAC, le Brouillon de Culture, Eureka Street, la librairie Guillaume, partout, vous pouvez retrouver les aventures d'Hector Vallon.
Et où est-ce que toi, on peut te retrouver prochainement? J'ai cru entendre tout à l'heure que peut-être qu'on pourrait te retrouver samedi.
Exactement, si vous le souhaitez, si vous voulez revenir à ma rencontre, je serai samedi après-midi à la FNAC de Caen. Donc n'hésitez pas, ce sera un plaisir d'échanger avec vous sur l'écriture, sur les aventures d'Hector Vallon.
Eh bien, merci beaucoup, Miguel, d'être venu pour nous parler des histoires d'Hector Vallon, finalement.
Merci à vous.
À très vite et peut-être à samedi, donc pour
ouais, un grand plaisir.